From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon.
This broadcast is furnished as a public service.
Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first.
Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la quatrième session de la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations et donnons notre bénédiction aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assistent à cette conférence ce matin. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg avec Andrew Unsworth et Clay Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette réunion en chantant « Sing praise to him » et interprétera maintenant que chacun de tout son cœur. Ensuite, Don R. Clark, des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera au grand prophète.
Notre cher Père Céleste, bien-aimé, en ce jour de sabbat, ce magnifique jour de sabbat, nous venons à toi avec reconnaissance pour toutes les bénédictions que tu déverses sur ton Église. Nous te remercions pour ce magnifique centre de conférence et pour toutes les bénédictions que nous recevons. Nous sommes reconnaissants pour l'expiation de ton Fils Jésus-Christ, qui nous permet d'avoir accès à la, au repentir et aux familles éternelles. Nous te remercions pour notre prophète Thomas Monson. Nous sommes reconnaissants pour le prophète Joseph Smith. Et en ce jour, nous te demandons de nous bénir pour que nous puissions être inspirés, que nous puissions savoir quoi faire pour mettre nos vies en conformité avec ta volonté. Nous te prions pour les orphelins, les veuves, et nous te demandons de nous aider à être des réponses à leurs prières. Nous te prions de bénir notre prophète, sa famille, ses conseillers et le Collège des Douze. Nous te prions tout particulièrement pour les missionnaires à travers le monde. Veuille les bénir et les protéger. Et aide-nous, nous, en tant que membres, à les soutenir et les aider dans la grande tâche de trouver tes enfants. Et nous te demandons tout cela. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Praise to the Lamb.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Henri B. Ehring, premier conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de Russell M. Nelson, du Collège des Douze Apôtres, Carol F. McConkie, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles, nous adressera ensuite la parole.
Mon espoir aujourd'hui est que nous ressentions tous l'amour et la lumière qui viennent de Dieu. Beaucoup de personnes qui écoutent aujourd'hui ressentent le besoin pressant de recevoir la bénédiction de la révélation personnelle venant de notre Père Céleste aimant. Pour les présidents de mission, il peut s'agir d'une prière fervente pour savoir comment encourager un missionnaire en difficulté. Pour un père ou une mère, dans un endroit du monde ravagé par la guerre, ce sera le besoin désespéré de savoir s'ils doivent partir avec leur famille pour chercher la sécurité ou rester où ils sont. Des centaines de présidents de pieux et d'évêques prient en ce moment pour savoir comment aider le Seigneur à secourir une brebis perdue. Et pour un prophète, ce sera de savoir ce que le Seigneur veut qu'il dise à l'Église et à un monde qui est dans la tourmente. Nous savons tous que le jugement de l'homme et son raisonnement logique ne suffisent pas pour répondre aux questions qui importent le plus dans la vie. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Et nous n'avons pas seulement besoin d'une révélation en période de tension, mais nous avons besoin d'un flot de révélations, constamment renouvelé. Nous n'avons pas simplement besoin d'un éclair de lumière et de réconfort, mais de la bénédiction permanente de la communication avec Dieu. L'existence même de l'Église est due à un jeune garçon qui savait que c'était vrai. Le jeune Joseph Smith savait qu'il ne pouvait pas savoir par lui-même à quelle Église se joindre. Il s'est donc adressé à Dieu, comme le livre de Jacques lui disait qu'il pouvait le faire. Dieu le Père et son Fils bien-aimé sont apparus dans un bosquet. Ils ont répondu à la question dont la résolution dépassait les capacités de Joseph. Ensuite, non seulement il a été appelé par Dieu pour établir la véritable Église de Jésus-Christ, mais avec cela, il a aussi rétabli le pouvoir de susciter la présence du Saint-Esprit afin que la révélation venant de Dieu soit continue. Le président Boyd K. Packer a décrit comme suit cette marque qui permet d'identifier la véritable Église. Je cite, « La révélation continue dans l'Église, le prophète la recevant pour l'Église, le président pour son pieu, sa mission ou son collège, l'évêque pour sa paroisse, le père pour sa famille, l'individu pour lui-même. » Fin de citation. Ce merveilleux processus de la révélation commence, finit et continue lorsque nous recevons la révélation personnelle. Prenons l'exemple du grand Néphi, le fils de Léhi. Son père a eu un songe. Des personnes de la famille de Néphi ont considéré que le songe de Léhi était une preuve de confusion mentale. Dans le songe, Dieu commandait au fils de Léhi de courir le risque terrible de retourner à Jérusalem pour chercher les plaques qui contenaient la parole de Dieu, afin qu'ils puissent l'emporter avec eux dans leur voyage avec la terre promise. Nous citons souvent la déclaration courageuse de Néphi lorsque son père lui a demandé de retourner à Jérusalem. Vous connaissez les paroles. Je cite, « J'irai et je ferai la chose que le Seigneur a commandée. » Fin de citation. Les Écritures disent que quand Léhi a entendu Néphi les prononcer, il se réjouit extrêmement. Il était content parce qu'il savait que Néphi avait eu la bénédiction de recevoir par révélation la confirmation que son songe était une communication authentique venant de Dieu. Néphi n'a pas dit « J'irai, je ferai la chose que mon père m'a demandé de faire ». Non, il a dit « J'irai et je ferai la chose que le Seigneur a commandée ». Votre expérience dans votre propre famille vous permet de savoir aussi pourquoi Léhi s'est réjoui extrêmement. Sa joie venait de ce qu'il savait que les filles avaient reçu une révélation de confirmation. De nombreux parents ont fixé des règles familiales précisant l'heure à laquelle un adolescent doit rentrer le soir. Mais imaginez la joie d'un parent qui apprend, comme l'un d'eux l'a appris il y a quelques semaines seulement, que sa fille, qui venait de quitter le domicile parental, s'est fixée elle-même un couvre-feu et qu'elle respecte aussi le sabbat, comme on le lui a enseigné chez elle. La révélation d'un parent a un effet durable sur la révélation personnelle qui continue chez l'enfant. Ma mère devait comprendre ce principe de la révélation. Jeune homme, quand je rentrais tard le soir, je fermais la porte de derrière très doucement. Je devais passer devant la chambre de ma mère pour rejoindre la mienne. J'avais beau marcher le plus silencieusement possible. Dès que j'arrivais au niveau de sa porte entrouverte, je l'entendais murmurer mon nom. Hal, entre un instant. J'entrais et je m'asseyais sur le rebord de son lit. La pièce était sombre. Si vous aviez pu écouter, vous auriez pensé qu'il s'agissait que d'une conversation amicale sur la vie. Mais aujourd'hui, mais encore, ce qu'elle disait me revient à l'esprit, avec la même force que celle que je ressens quand je lis la transcription de ma bénédiction patriarcale. Je ne sais pas ce qu'elle demandait quand elle priait, en m'attendant ces soirées-là. Je suppose qu'entre autres, il était question de ma sécurité. Mais je suis sûr qu'elle priait comme le fait un patriarche avant de donner une bénédiction. Il prie afin que ses paroles soient reçues comme des paroles de Dieu, pas comme les siennes. Les prières de ma mère pour que j'aie cette bénédiction ont été exaucées. Elle est dans le monde des esprits depuis maintenant plus de 40 ans. Je suis sûr qu'elle se réjouit extrêmement de ce que j'ai été béni, comme elle l'a demandé, parce que j'ai reconnu dans ses conseils les commandements de Dieu. Et j'ai essayé d'aller faire ce qu'elle espérait que je ferais. J'ai vu le même miracle de la révélation continue chez des présidents de pieux et des évêques de l'Église. Et comme c'est le cas de la révélation aux chefs de famille, la valeur de la révélation dépend du fait que ceux qui sont dirigés reçoivent eux aussi une révélation de confirmation. J'ai vu le miracle de la révélation après la rupture du barrage de la Teton River en Idaho en 1976. Vous êtes nombreux à savoir ce qui s'est passé. Mais l'exemple de révélation continue qu'a reçu un président de pieux pourrait être une bénédiction pour nous tous dans les jours prochains. Des milliers de personnes ont été évacuées quand leur maison a été détruite. La direction des secours a reposé sur les épaules d'un président de pieux local, un fermier. J'étais dans une salle de classe à l'université Ricks College à peine quelques jours après la catastrophe. Un responsable du bureau fédéral des catastrophes est arrivé. Ses adjoints et lui sont entrés dans la grande salle où le président de pieux avait rassemblé les évêques, ainsi que des ministres locaux d'autres religions. J'étais là parce que de nombreux survivants étaient soignés et hébergés sur le campus universitaire dont j'étais le président. Quand la réunion a commencé, le représentant du bureau fédéral des catastrophes s'est levé et a commencé à dire d'une voix autoritaire ce qu'il fallait faire. Une fois qu'il a eu indiqué les 5 ou 6 tâches qu'il qualifiait d'essentielles, le président de pieux a répondu calmement « Nous avons déjà fait tout cela ». Au bout de quelques minutes, l'homme du bureau fédéral des catastrophes a dit « Je pense que je vais simplement m'asseoir et observer un moment ». Alors, ses assistants et lui ont écouté les évêques et les présidents de collèges d'anciens donner le compte-rendu de ce qu'ils avaient fait. Ils ont décrit les directives qu'ils avaient reçues de leurs dirigeants et qu'ils avaient appliquées. Ils ont également parlé de ce qu'ils avaient été inspirés à faire quand ils ont suivi les instructions pour trouver les familles et les aider. Il était tard ce jour-là. Ils étaient tous trop fatigués pour montrer beaucoup d'émotion, excepté leur amour des gens. Le président de pieux a donné aux évêques quelques directives finales, puis a annoncé l'heure de la prochaine réunion de rapport tôt le lendemain matin. Le lendemain matin, le responsable de l'équipe fédérale est arrivé 20 minutes avant l'heure prévue de la réunion, de rapport et d'attribution des tâches. Je l'ai entendu dire doucement au président Pieux, « Monsieur, qu'aimeriez-vous que moi et les membres de mon équipe fassions ?» Ce que cet homme a vu, je l'ai vu dans des moments de détresse et d'épreuve partout dans le monde. Le président Packer avait raison. La révélation continue est donnée au président Pieux afin de les élever au-dessus de leur propre sagesse et de leur propre capacité. Et au-delà de cela, le Seigneur donne aux personnes que le président dirige un témoignage de confirmation que ces directives viennent de Dieu par le Saint-Esprit à un être humain imparfait. J'ai eu la bénédiction d'être appelé à suivre des dirigeants inspirés pendant la plus grande partie de ma vie. Quand j'étais jeune homme, j'ai été appelé comme conseiller d'un président de collège d'anciens. J'ai été conseiller de deux présidents de district, d'un évêque président de l'Église, membre du collège des 12 apôtres, et conseiller de deux présidents de l'Église. J'ai vu ces hommes recevoir des révélations qui ont été ensuite confirmées aux personnes qui les suivaient. Cette révélation personnelle d'acceptation que nous désirons tous recevoir ne s'obtient pas facilement, ni sur simple demande. Le Seigneur a donné la règle suivante pour que nous ayons la capacité de recevoir ces témoignages de Dieu. C'est un guide pour quiconque recherche la révélation personnelle, comme nous le devons tous. Je cite, « Que tes entrailles soient également remplies de charité envers tous les hommes et envers les frères en la foi, et que la vertu orne sans cesse tes pensées. Alors, ton assurance deviendra grande dans la présence de Dieu, et la doctrine de la prêtrise se distillera sur ton âme comme la rosée des cieux. Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant. » Le conseil que j'en retire s'applique à nous tous. Ne prenez pas à la légère les sentiments d'amour que vous avez à l'égard du prophète de Dieu. Partout où je vais dans l'Église, quel que soit le prophète du moment, les membres disent « Lorsque vous serez rentré au siège de l'Église, pourriez-vous dire au prophète à quel point nous l'aimons ?» Cela va bien au-delà de la vénération ou des sentiments que nous avons parfois pour des personnages héroïques et admirables. C'est un don de Dieu. Grâce à lui, vous recevrez plus facilement la confirmation d'une révélation quand il parle en tant que prophète du Seigneur. L'amour que vous ressentez, l'amour que le Seigneur a pour quiconque est son porte-parole. Ce n'est pas facile de ressentir cela continuellement, parce que souvent, le Seigneur demande à ses prophètes de donner des conseils que les gens ont du mal à accepter. L'ennemi de notre âme essaye de nous pousser à nous offenser et à douter que l'appel du prophète vienne de Dieu. J'ai vu comment le Saint-Esprit peut toucher un cœur adouci afin de protéger un humble disciple de Jésus-Christ par une révélation de confirmation. Le prophète m'a envoyé conférer le pouvoir sacré de scellement à un homme d'une toute petite ville. Seul le prophète de Dieu a les clés pour décider qui doit recevoir le pouvoir sacré qui a été donné par le Seigneur à Pierre, le chef des apôtres. J'ai reçu ce même pouvoir de scellement, mais ce n'est que sous la direction du président de l'Église que je peux le conférer à quelqu'un d'autre. Donc, dans une salle de culte, loin de Salt Lake City, j'ai posé mes mains sur la tête d'un homme choisi par le prophète pour recevoir le pouvoir de scellement. Ses mains portaient les marques d'une vie passée à cultiver la terre pour une maigre subsistance. Sa toute petite femme était assise près de lui. Elle aussi portait les marques d'années de dur labeur aux côtés de son mari. J'ai prononcé les paroles données par le prophète, par l'autorité et la responsabilité qui m'ont été déléguées par, et ensuite le nom du prophète, détenant toutes les clés de la prêtrise sur la terre actuellement, je confère le pouvoir de scellement à, et j'ai prononcé son nom, et le nom du temple dans lequel il allait être scelleur. Les larmes ont ruisselé sur ses joues. J'ai vu que sa femme pleurait aussi. J'ai attendu qu'il se calme. Elle s'est levée et s'est avancée vers moi. Elle m'a regardé, puis a dit timidement qu'elle était heureuse, mais triste aussi. Elle a dit qu'elle avait aimé aller au temple, Elle avait tant aimé aller au temple avec son mari, mais que maintenant, elle avait le sentiment qu'elle ne devait pas aller avec lui parce que Dieu l'avait choisi pour une responsabilité glorieuse et sacrée. Puis elle a dit qu'elle ne se sentait pas à la hauteur pour être sa compagne dans le temple parce qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Je lui ai assuré que ce serait un honneur pour son mari qu'elle l'accompagne dans le temple parce qu'elle avait une grande force spirituelle. Du mieux que je pouvais, avec ma connaissance limitée de sa langue, je lui ai dit que Dieu lui avait révélé des choses qui dépassaient toute instruction terrestre. Elle savait par le don de l'Esprit de Dieu que Dieu avait accordé sa confiance divine à son mari, qu'elle aimait par l'intermédiaire de son prophète. Elle savait personnellement que les clés qui permettent de donner ce pouvoir de scellement étaient détenues par un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais dont elle savait personnellement qu'il était le prophète vivant de Dieu. Elle savait, sans qu'aucun témoin vivant le lui ait dit, que le prophète avait prié concernant le nom de son mari. Elle savait personnellement que Dieu l'avait appelé. Elle savait aussi que les ordonnances que son mari allait accomplir uniraient des gens pour l'éternité dans le royaume céleste. Elle a eu la confirmation dans son esprit et son cœur que la promesse que le Seigneur a faite à Pierre continuer de s'appliquer dans l'Église. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Elle savait cela personnellement, par révélation de Dieu. Revenons à notre point de départ. Je cite, « La révélation continue dans l'Église, le prophète la recevant pour l'Église, le président pour son pieu, sa mission ou son collège, l'évêque pour sa paroisse, le père pour sa famille, l'individu pour lui-même. Je vous témoigne que c'est vrai. Notre Père Céleste entend vos prières, il vous aime et connaît votre nom. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et notre Rédempteur. Il vous aime au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dieu déverse ses révélations par le Saint-Esprit sur ses enfants. Il parle à son prophète ici-bas, qui aujourd'hui est Thomas S. Monson. Je témoigne qu'il détient et exerce toutes les clés de la prêtrise sur terre. Je prie pour qu'en écoutant pendant cette conférence les paroles des personnes que Dieu a appelées à s'exprimer en son nom, vous receviez la révélation de confirmation qui vous permettra de trouver votre chemin dans le voyage pour retourner demeurer avec lui au sein d'une famille scellée pour l'éternité. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Président Eyring, nous vous remercions pour votre message inspirant. Mes chers frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi et de votre dévouement. Hier, on nous a tous demandé de soutenir Thomas S. Monson comme prophète du Seigneur et président de son Église. Et souvent, nous chantons « Seigneur, merci pour le prophète ». Comprenons-nous réellement, vous et moi, ce que cela signifie? Imaginez l'honneur que nous fait le Seigneur de soutenir son prophète, dont les conseils seront purs, authentiques, motivés par aucune aspiration personnelle, et totalement vrais. Comment soutenons-nous réellement un prophète? Longtemps avant de devenir président de l'Église, Joseph F. Smith a expliqué « Les saints qui soutiennent les autorités de l'Église ont le devoir important de le faire non seulement en levant la main, qui n'en est que la forme, mais aussi en action et en vérité. » Je me souviens bien de l'action la plus remarquable que j'ai faite pour soutenir un prophète. Quand je pratiquais la médecine et étais chirurgien cardiaque, j'ai eu la responsabilité de pratiquer, en 1972, une opération à cœur ouvert sur le président Kimball, à l'époque où il était président suppléant du Collège des 12 apôtres. Il avait besoin d'une opération très complexe. Je n'avais aucune expérience de ce genre de procédure sur un patient de 77 ans en insuffisance cardiaque. Je ne recommandais pas l'opération et j'en ai informé le président Kimball et la première présidence. Mais avec foi, le président Kimball a choisi de se faire opérer uniquement sur le conseil de la première présidence. Cela illustre la façon dont il soutenait ses dirigeants. Et cette décision m'a fait trembler. Grâce au Seigneur, l'opération a été une réussite. Quand le cœur du président Kimball s'est remis à battre, il l'a fait avec une grande vigueur. À ce moment précis, j'ai eu un témoignage clair de l'Esprit que cet homme serait un jour président de l'Église. Vous connaissez la suite. À peine 20 mois plus tard, il devenait président de l'Église. Et il a dirigé avec hardiesse et courage pendant plusieurs années. Depuis, nous avons soutenu Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley et aujourd'hui Thomas S. Monson comme président de l'Église. Des prophètes dans tous les sens du terme. Mes chers frères et sœurs, s'il y a une chose que le rétablissement a faite, c'est de briser le mythe séculaire selon lequel Dieu a cessé de parler à ses enfants. Rien n'est plus éloigné de la vérité que ce mythe. Il y a eu un prophète à la tête de l'Église de Dieu dans toutes les dispensations depuis Adam jusqu'à notre époque. Les prophètes témoignent de Jésus-Christ, de sa divinité, de sa mission et de son ministère terrestre. Nous honorons Joseph Smith comme étant le prophète de cette dernière dispensation. Et nous honorons chaque homme qui lui a succédé comme président de l'Église. Lorsque nous soutenons les prophètes et les autres dirigeants, nous en appelons à la loi du consentement commun, car le Seigneur a dit « Il ne sera donné à aucun homme d'aller prêcher mon évangile ou d'édifier mon Église s'il n'est ordonné par quelqu'un qui a l'autorité et dont l'Église sait qu'il a l'autorité et qui a été dûment ordonné par les chefs de l'Église. » Cela nous donne, à nous, membres de l'Église du Seigneur, confiance et foi dans nos efforts pour suivre l'injonction scripturaire d'écouter la voix du Seigneur telle qu'elle est donnée par la voix de ses serviteurs les prophètes. Tous les dirigeants de l'Église du Seigneur sont appelés par l'autorité appropriée. Aucun prophète, ni aucun autre dirigeant ou dirigeante de l'Église, d'ailleurs, ne s'est jamais appelé lui-même ou appelé elle-même. Aucun prophète n'a jamais été élu. Le Seigneur l'a clairement dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » On ne vote pas pour les dirigeants de l'Église, de quelque niveau que ce soit. Cependant, il nous est donné le privilège de les soutenir. Les voies du Seigneur sont différentes des voies de l'homme. Les voies de l'homme font que lorsque quelqu'un devient vieux ou infirme, il est écarté de son poste ou du monde professionnel. Mais les voies de l'homme ne sont pas et ne seront jamais celles du Seigneur. Notre soutien aux prophètes est un encouragement personnel à faire tout notre possible pour suivre les priorités qu'il fixe. Par notre soutien, nous indiquons, comme par serment, que nous reconnaissons que leur appel de prophète est légitime et qu'il nous engage. 26 ans avant de devenir président de l'Église, George Albert Smith a dit « Lorsque nous levons la main, l'obligation que nous contractons est des plus sacrées. Cela ne signifie pas que nous continuerons tranquillement de suivre notre chemin et que nous sommes disposés à laisser le prophète du Seigneur diriger cette œuvre. Cela signifie que nous le soutiendrons, que nous prierons pour lui, que nous défendrons sa réputation et que nous nous efforcerons de suivre les instructions que le Seigneur lui demandera de nous donner. Fin de citation. Le Seigneur vivant dirige son Église vivante. Le Seigneur révèle sa volonté pour l'Église à son prophète. Hier, après avoir été invité à soutenir Thomas S. Monson comme président de l'Église, il nous a aussi été donné de le soutenir, lui, les conseillers dans la première présidence et les membres du collège des 12 apôtres, comme prophète, voyant et révélateur. Réfléchissez à cela. Nous soutenons 15 hommes comme prophètes de Dieu. Ils détiennent toutes les clés de la prêtrise qui ont jamais été conférées à l'homme dans cette dispensation. L'appel de 15 hommes au Saint-Apostolat est pour nous, membres de l'Église, une grande protection. Pourquoi ? Parce que les décisions de ces dirigeants se doivent d'être unanimes. Pouvez-vous imaginer comment l'Esprit doit agir chez 15 hommes pour qu'il y ait unanimité ? Ces 15 hommes ont des expériences intellectuelles et professionnelles variées, et leurs opinions diffèrent sur de nombreux sujets. Croyez-moi. Ces 15 hommes, prophètes, voyants et révélateurs, savent quelle est la volonté de Dieu lorsqu'ils parviennent à l'unanimité. Ils sont attachés à veiller à ce que le Seigneur, que la volonté du Seigneur s'accomplisse véritablement. Le Notre Père est le modèle dont chacun de ces 15 hommes s'inspire quand il prie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'apôtre qui a la plus grande ancienneté dans l'apostolat préside. Ce système, fondé sur l'ancienneté, fait que ce sont généralement des hommes plus âgés qui deviennent présidents de l'Église. Cela permet d'avoir une continuité, une maturité chevronnée de l'expérience et une préparation considérable selon ce que guide le Seigneur. L'Église d'aujourd'hui a été organisée par le Seigneur lui-même. Il a mis en place un système de direction remarquable où tout est dédoublé et renforcé. Ce système nous garantit d'être dirigé par un prophète, même si d'inévitables maladies et incapacités surviennent en raison de l'âge. Il y a de multiples contrepoids et protections en place afin qu'aucun homme ne puisse jamais égarer l'Église. Les hauts dirigeants sont constamment instruits afin d'être prêts un jour à siéger dans les plus hauts conseils. Ils apprennent à entendre la voix du Seigneur grâce au murmure de l'Esprit. Quand il était premier conseiller d'Ezra Taft Benson, qui approchait alors de la fin de sa vie dans la condition mortelle, Gordon B. Hinckley a expliqué, je cite, les principes et les modalités que le Seigneur a mis en place pour le gouvernement de son Église prévoient l'éventualité de telles circonstances. Il est important qu'il n'y ait aucun doute ou souci à propos de la direction de l'Église et de l'exercice des dons prophétiques, y compris le droit à l'inspiration et à la révélation dans l'administration des affaires et des programmes de l'Église, quand le président est malade ou n'est pas en mesure de remplir pleinement ses fonctions. La première présidence est le conseil des 12 apôtres, appelés et ordonnés pour détenir les clés de la prêtrise, ont l'autorité et la responsabilité de gouverner l'Église, d'en administrer les ordonnances, d'en exposer la doctrine et d'en établir et maintenir les pratiques. Le président Hinckley a ajouté, quand le président est malade, ou n'est pas en mesure de remplir pleinement tous les devoirs de son office, ces deux conseillers fonctionnent ensemble comme un collège de la première présidence. Ils s'occupent du travail quotidien de la présidence. Mais pour toute question de règles, de modalités, de programmes ou de doctrines, on a recours à une consultation libre et dans la prière de la première présidence et des 12 ensemble. Fin de citation. L'année dernière, cinquième anniversaire de sa présidence de l'Église, Thomas S. Monson a évoqué ses 50 années de service apostolique et a fait la déclaration suivante. Je cite, « L'âge finira par laisser sa marque sur chacun de nous. Cependant, nous joignons notre voix à celle du roi Benjamin qui a dit, « Je suis semblable à vous, sujet à toutes sortes d'infirmités de corps et d'esprit. Cependant, j'ai été choisi et consacré par mon Père, et j'ai été gardé et préservé par sa puissance incomparable pour vous servir de tout le pouvoir, de tout l'esprit et de toute la force que le Seigneur m'a accordé. » Mosiah 2:11. Le président Monson a ajouté, malgré les problèmes de santé qui peuvent survenir, malgré les faiblesses du corps ou de l'esprit, nous servons de notre mieux. Je vous assure que l'Église est entre de bonnes mains. Le système établi de conseil de la première présidence et du collège des 12 nous garantit de toujours être en de bonnes mains et que quoi qu'il arrive, nous n'avons nul besoin de nous inquiéter ou de craindre. Notre Sauveur Jésus-Christ que nous suivons, que nous adorons et que nous servons est toujours à la barre. Fin de citation. Frère Monson, merci de ces vérités. Et merci de votre vie de service exemplaire et dévouée. J'aimerais m'exprimer au nom des membres de l'Église du monde entier pour dire notre reconnaissance unanime et sincère. Nous vous rendons hommage, nous vous aimons, nous vous soutenons, non seulement en levant la main, mais de tout notre cœur et de tous nos efforts dévoués, avec humilité et ferveur. Nous prions pour vous, notre cher prophète. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Notre Père Céleste aime tous ses enfants et désire qu'ils connaissent et comprennent son plan du bonheur. C'est pourquoi il appelle des prophètes qui ont reçu par ordination le pouvoir et l'autorité d'agir au nom de Dieu pour le salut de ses enfants. Ils sont des messagers de justice, des témoins de Jésus-Christ et du pouvoir infini de son expiation. Ils détiennent les clés du royaume de Dieu sur terre et autorisent l'accomplissement des ordonnances du salut. Dans la véritable Église du Seigneur, il n'y en a jamais qu'un à la fois sur terre à qui ce pouvoir et les clés de cette prêtrise sont conférées. Nous soutenons le président Monson comme notre prophète, voyant et révélateur. Il révèle la parole du Seigneur pour guider et diriger notre Église tout entière. Comme l'a expliqué J. Reuben Clark, lui seul a le droit de recevoir des révélations pour l'Église ou de changer de quelque façon que ce soit la doctrine existante de l'Église. Au sujet du prophète vivant, le Seigneur donne ce commandement aux membres de son Église. Vous prêterez l'oreille à toutes ses paroles et à tous les commandements qu'il vous donnera, à mesure qu'il les reçoit, marchant en toute sainteté devant moi. Car vous recevrez sa parole en toute patience, avec une foi absolue, comme si elles sortaient de ma propre bouche. Car si vous faites ces choses, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Afin d'être en accord avec les desseins divins des cieux, nous soutenons le prophète et choisissons de vivre conformément à ses paroles. Nous soutenons aussi les conseillers du président Monson et les membres du Collège des 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Ils ont le droit, le pouvoir et l'autorité de déclarer la volonté du Seigneur sous la direction du président de l'Église. Ils parlent au nom du Christ. Ils prophétisent au nom du Christ. Ils font tout au nom du Christ, de Jésus-Christ. Nous ressentons l'amour du Sauveur dans leurs paroles. Et tout ce qu'ils disent sous l'inspiration du Saint-Esprit est écriture et le pouvoir de Dieu pour le salut. Le Seigneur lui-même a dit, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. Nous sommes reconnaissants d'avoir une Église édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La maison du Seigneur est une maison d'ordre et nous pourrons toujours savoir où trouver la réponse à nos questions ou connaître avec certitude la voie que nous devons suivre. Nous n'avons pas à être flottants et emportés à tout vent de doctrine. Dieu révèle sa parole par l'intermédiaire de ses serviteurs ordonnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Lorsque nous choisissons de vivre conformément aux paroles des prophètes, nous sommes sur le chemin des alliances qui mènent à la perfection éternelle. Une mère seule, qui s'efforçait de survivre à la famine, nous apprend ce que signifie soutenir un prophète. Le Seigneur ordonna au prophète Élie de se rendre à Sarepta, où il trouverait une veuve à qui le Seigneur avait commandé de le nourrir. Arrivant à l'entrée de la ville, Élie la vit ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui répondit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Imaginez un instant la difficulté de ce que le prophète demandait à cette mère affamée. Il ne fait aucun doute que Dieu lui-même aurait pu fournir de la nourriture à son serviteur fidèle. Mais, agissant au nom du Seigneur, Élie fit ce qu'on lui avait ordonné, à savoir demander à une fille bien-aimée de Dieu de tout sacrifier pour nourrir le prophète. Seulement, Élie promit aussi une bénédiction en cas d'obéissance. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Le Seigneur a donné à la veuve la possibilité de choisir de croire et d'obéir aux paroles du prophète. Dans un monde menacé par une famine de justice et de spiritualité, nous avons reçu le commandement de soutenir le prophète. Lorsque nous écoutons attentivement les paroles du prophète, les soutenons et les affirmons, nous témoignons que nous avons la foi de nous soumettre humblement à la volonté, à la sagesse et au calendrier du Seigneur. Nous écoutons la parole du prophète même lorsqu'elle nous paraît déraisonnable, inopportune et dérangeante. Selon les critères du monde, suivre le prophète peut être impopulaire, politiquement incorrect ou socialement inacceptable. Cependant, c'est toujours la bonne chose à faire. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le Seigneur honore et favorise les personnes qui écoutent les directives du prophète. Quant à la veuve de Sarepta, son obéissance à Élie lui a sauvé la vie, et en fin de compte, elle a aussi sauvé la vie de son fils. Comme le prophète l'avait promis, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Le Seigneur prend soin des personnes qui lui font confiance. Les paroles des prophètes sont comme la manne pour notre âme. Lorsque nous les recevons, nous sommes bénis, protégés et préservés temporellement et spirituellement. Quand nous nous faisons un festin de leurs paroles, nous apprenons comment aller au Christ et vivre. Bruce R. McConkie a écrit qu'à travers les paroles des prophètes, le Seigneur révèle la vérité du salut, le salut qui est en Christ, et il trace le chemin qui mène à la vie éternelle. Il a ajouté, à chaque époque, le Seigneur donne au peuple les directives dont il a besoin lorsqu'il est en danger. Et il y aura certainement, dans les jours à venir, des moments où seule la sagesse de Dieu, venant des cieux, et dispensée par l'intermédiaire des prophètes, sera en mesure de sauver son peuple. Fin de citation. Dans mon cas, les paroles des prophètes que mon instructrice des L'Oréal m'a enseignées m'ont donné la vision de ce que devait être un mariage fondé sur une alliance. Les paroles des prophètes m'ont donné la foi et l'espérance nécessaires pour pouvoir me préparer à un foyer heureux et l'obtenir. L'étude régulière des enseignements des prophètes passés et présents m'a soutenue pendant les années éprouvantes et souvent épuisantes au cours desquelles j'ai porté, éduqué et élevé cet enfant. Les paroles des prophètes rapportées dans les Écritures et qui sont enseignées à cette chair sont des paroles de réconfort, d'amour, de force et de joie qui s'appliquent à chacun de nous. Lorsque nous écoutons ces paroles, nous bâtissons notre foyer et notre vie sur une fondation à jamais sûre, le roc de notre Rédempteur qui est le Christ, le Fils de Dieu, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur nous, cela n'ait aucun pouvoir sur nous pour nous entraîner en bas jusqu'à la misère et au malheur sans fin. Nous avons un choix à faire. Nous pouvons choisir de ne pas tenir compte des paroles du Christ prononcées par ses serviteurs ordonnés, de les prendre à la légère, de les fouler aux pieds ou de nous rebeller contre elles. Mais le Seigneur a enseigné que les gens qui agissent ainsi seront retranchés du peuple de son alliance. Si nous lisons et étudions en nous aidant de la prière, la parole sacrée des prophètes ayant foi au Christ avec une intention réelle, le Saint-Esprit déposera la vérité dans notre esprit et dans notre cœur. Puissions-nous ouvrir les oreilles afin d'entendre, le cœur afin de comprendre et l'esprit afin que les mystères de Dieu soient dévoilés à notre vue. Je rends témoignage que Joseph Smith était et est le prophète appelé de Dieu pour rétablir l'évangile de Jésus-Christ et sa prêtrise sur terre. Et je témoigne qu'en la personne du président Monson, nous sommes dirigés aujourd'hui par un vrai prophète de Dieu. Puissions-nous choisir d'être aux côtés des prophètes et de vivre conformément à leurs paroles jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à la purification en Christ et à la connaissance du Fils de Dieu. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter ensemble « Vrais disciples du Seigneur ». Après ce chant, nous entendrons Robert D. Hales du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de James G. Amula des 70. Après son discours, le chœur chantera « Softly and tenderly ». Vous assistez à la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
many years ago, I took the opportunity to study.
J'ai saisi l'occasion d'étudier le dernier témoignage des prophètes de chaque dispensation.
Each bore a powerful witness of God the Father.
Chacun d'eux a rendu un témoignage puissant de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Chaque fois que j'ai lu leur témoignage, et bien d'autres au fil des ans, j'ai été toujours touché de voir combien notre Père Céleste aime son Fils aîné et la manière dont Jésus montre son amour en obéissant à la volonté de son Père. Je témoigne que si nous faisons le nécessaire pour les connaître, eux et leur amour, l'un pour l'autre, nous obtiendrons le plus grand de tous les dons de Dieu, la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Comment pouvons-nous obtenir ce don? Il vient de, par révélation personnelle, ce dont on a déjà parlé ce matin. Vous souvenez-vous de la première fois? Vous avez su qu'il y avait un Dieu et vous avez ressenti son amour? Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de regarder le ciel étoilé et de ressentir sa présence. Je me faisais une joie d'explorer la beauté sublime de la création de Dieu, des insectes minuscules aux arbres gigantesques. En prenant conscience de la beauté de cette terre, j'ai appris que notre Père Céleste m'aimait. J'ai su que j'étais littéralement son enfant d'esprit, que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Comment est-ce que je le sais? Les Écritures enseignent. Il est donné à certains par le Saint-Esprit de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à d'autres, il est donné de croire en leurs paroles afin d'avoir, eux aussi, la vie éternelle s'ils restent fidèles. Fin de citation. De mon point de vue, cela ne signifie pas que certaines personnes resteront à jamais dépendantes du témoignage des autres. Mon témoignage personnel a grandi lorsque j'ai découvert notre Père Céleste et le Sauveur grâce à l'enseignement et au témoignage de mes parents, de mes instructeurs, des Écritures et particulièrement du Saint-Esprit. À condition d'étudier les Écritures avec diligence. Lorsque j'ai fait preuve de foi et obéi au commandement, le Saint-Esprit a témoigné de la véracité de ce que j'apprenais. C'est comme cela que j'ai su par moi-même, dans ce processus, la clé consiste à rechercher la révélation est une clé. Néphi lance à chacun de nous cette invitation. Faites-vous un festin des paroles du Christ, car voici, les paroles du Christ vous diront tout ce que vous devez faire. Avant d'avoir 8 ans, j'ai cherché à en savoir plus sur le baptême. J'ai lu les Écritures et j'ai prié. J'ai appris que je recevrais le don du Saint-Esprit lors de ma confirmation. J'ai aussi commencé à comprendre que Dieu et le Christ sont littéralement un Père et un Fils, des êtres distincts, qui sont entièrement unis pour ce qui est de leur dessein. Nous les aimons parce qu'ils nous ont aimés les premiers. Et j'ai observé à maintes reprises combien ils s'aiment l'un l'autre et la manière dont ils œuvrent ensemble pour notre bien. Écoutez quelques-unes des nombreuses Écritures qui enseignent cette vérité. En parlant de la vie prémortelle, notre Père Céleste a dit de son Fils Jésus-Christ qu'il était son Fils bien-aimé, qui était son bien-aimé, son élu, depuis le commencement. Lorsqu'il a créé la terre, le Père l'a fait par son Fils unique. Il fut dit à Marie, la mère de Jésus, qu'elle enfanterait le Fils du Très-Haut. Et lorsqu'il était jeune, Jésus dit à sa mère qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. Des années plus tard, lorsque le Sauveur se fit baptiser, notre Père Céleste dit Dieu des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pour apprendre à ses disciples à prier, Jésus prononça ces paroles. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » Il enseigna à Nicodème que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il expliqua ses miracles en disant, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Fin de citation. Alors que l'heure de l'expiation approchait, Jésus fit cette prière. « Père, l'heure est venue. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Puis, lorsque le poids de nos péchés tomba sur lui, il implora, « Ô mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au cours de ses derniers instants sur la croix, Jésus fit cette prière, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis il s'écria, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis il rendit visite aux esprits des gens qui étaient morts dans le monde des esprits pour leur donner le pouvoir de se lever après sa résurrection d'entre les morts, pour entrer dans le royaume de son Père. Après sa résurrection, le Sauveur apparut à Marie de Magdala et lui dit, « Je monte vers mon Père et votre Père. » Lorsque Jésus rendit visite aux gens sur le continent américain, son Père le présenta, disant, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je me complais, en qui j'ai glorifié mon nom. » Lorsqu'il descendit et se tint au milieu des gens, Jésus se présenta disant, « Voici, je suis Jésus-Christ. J'ai glorifié le Père en prenant sur moi les péchés du monde. » Lorsqu'il enseigna sa doctrine, il expliqua, « C'est la doctrine que le Père m'a donnée, et je témoigne du Père. » Et le Père témoigne de moi. En vérité, le Père et moi sommes un. Voyons-nous un modèle dans ces Écritures qui témoigne que le Père et le Fils sont des êtres distincts? Comment peuvent-ils alors être un? Ce n'est pas parce qu'ils sont la même personne, mais parce qu'ils sont unis pour ce qui est de leur dessein, dévoués de la même manière à la réalisation de l'immortalité et de la vie éternelle de l'homme. Jésus est un Dieu. Cependant, il montre constamment qu'il est un être distinct, en priant son Père et en disant qu'il fait la volonté de ce dernier. Au cours de son ministère parmi les Néphites, il a imploré, « Père, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés de parmi le monde, afin que je sois en eux, comme toi, Père, tu es en moi, afin que nous soyons un, afin que je sois glorifié en eux. » Avec cela, nous ne sommes pas surpris que le rétablissement de l'Évangile et commencer par l'apparition de deux êtres glorifiés, et non pas d'un seul. Joseph Smith, le prophète, témoigna au sujet de sa première vision. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit, en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Le jeune prophète, qui est entré dans ce bosquet animé d'une foi inébranlable, en est ressorti avec la connaissance et le témoignage du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ que Dieu avait envoyé. Joseph, comme les prophètes avant lui, devait ainsi devenir un instrument pour redonner au monde la connaissance qui mène à la vie éternelle. Vous pouvez, vous aussi, rechercher notre Père Céleste et ce Jésus de qui les prophètes et les apôtres ont témoigné dans les Écritures et cette conférence générale. Alors que vous recherchez un témoignage personnel, une révélation personnelle, vous découvrirez alors que notre Père Céleste vous a fourni un moyen spécial de connaître la vérité par vous-même, par l'intermédiaire du troisième membre de la divinité, un personnage d'esprit que nous connaissons sous le nom de Saint-Esprit. Et lorsque vous recevrez ces choses, y compris ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Frères et sœurs, je témoigne que notre Père Céleste veut que nous recherchions cette connaissance aujourd'hui. Les paroles du prophète Élaman crient de la poussière. Souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation. Une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. En vérité, nous ne tomberons pas. Cette fondation sûre est Jésus-Christ. Il est le roc du ciel. Lorsque nous bâtissons notre maison sur lui, les pluies des derniers jours peuvent s'abattre, les déluges peuvent arriver et les vents peuvent souffler. Mais nous résisterons. Nous ne tomberons pas, car notre foyer et notre famille seront fondés sur le Christ. Je témoigne qu'un tel foyer est une maison de gloire. Nous nous y rassemblons pour prier notre Père Céleste, au nom de son Fils bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous les y glorifions et leur exprimons notre reconnaissance. Nous y recevons le Saint-Esprit et la promesse qu'il nous fait de la vie éternelle, c'est-à-dire la gloire du royaume céleste. Je rends mon témoignage apostolique que notre Sauveur Jésus-Christ vit. Notre Père céleste nous aime et veille sur nous, que nous avons un prophète dans cette dispensation pour nous guider, pour nous diriger. Le Saint-Esprit témoigne que c'est vrai pour celui qui recherche la connaissance. Au nom de Jésus-Christ, amen.
La veille de Gethsémané et du Calvaire, Jésus a rassemblé ses apôtres pour un dernier moment sacré. Le lieu était la salle haute de la maison d'un disciple à Jérusalem, et c'était la période de la Pâque. Sous leurs yeux se trouvait le dernier repas de la Pâque, comprenant l'agneau du sacrifice, du vin et du pain sans levain, emblème de la délivrance d'Israël de l'esclavage et de la mort, et de la rédemption qui devait avoir lieu. À la fin du repas, Jésus a pris le pain, l'a béni, l'a rompu et l'a donné à ses apôtres en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De la même manière, il a pris une coupe de vin, l'a béni et passé à ceux qui étaient autour de lui en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » De cette façon simple mais profonde, Jésus a institué une nouvelle ordonnance pour le peuple de l'Alliance de Dieu. Le sang des animaux ne devait plus être répandu, ni leur chair consumée, pour annoncer le sacrifice rédempteur d'un Christ qui devait venir. Au lieu de cela, on prendrait et mangerait les emblèmes de la chair brisée et du sang répandu du Christ qui était déjà venu en souvenir de son sacrifice rédempteur. Tous ceux qui participeraient à cette nouvelle ordonnance signifieraient qu'ils acceptent solennellement Jésus comme le Christ promis et qu'ils sont disposés sans réserve à le suivre et à respecter ses commandements. Ceux qui le feraient et conformeraient ainsi leur vie verraient la mort spirituelle passer au-dessus d'eux et s'assureraient la vie éternelle. Dans les heures qui ont suivi, Jésus est allé à Gethsémané, a été conduit au calvaire et est ressorti triomphant du sépulcre d'Arimathée. Après le départ de Jésus, ses fidèles disciples qui se trouvaient à Jérusalem et aux alentours se sont rassemblés le premier jour de la semaine pour rompre le pain, ce qu'ils ont fait après avec persévérance. Ils ne l'ont pas fait uniquement en souvenir de leur Seigneur parti, mais aussi pour exprimer leur reconnaissance pour sa merveilleuse rédemption en laquelle ils avaient foi. Il est à noter que lorsqu'il a rendu visite à ses disciples en Amérique, Jésus a également institué la Sainte Cène parmi eux. Ce faisant, il a dit, « Cela, vous vous appliquerez toujours à le faire, et ce sera un témoignage pour le Père que vous vous souvenez toujours de moi. » De même, au début du rétablissement, le Seigneur a de nouveau institué la Sainte Cène, nous donnant des instructions similaires à celles qu'il avait données à ses premiers disciples. L'ordonnance de la Sainte Cène a été décrite comme étant l'une des ordonnances les plus saintes et les plus sacrées de l'Église. Elle doit devenir plus sainte et plus sacrée pour chacun de nous. Jésus-Christ lui-même a institué cette ordonnance afin que nous nous souvenions de ce qu'il a fait pour nous racheter et pour nous enseigner comment nous pouvons bénéficier de sa rédemption et ainsi vivre de nouveau avec Dieu. En prenant le pain rompu, nous indiquons que nous nous souvenons du corps physique de Jésus-Christ, corps qui a été tourmenté de douleurs, d'afflictions et de tentations de toutes sortes. Corps qui a porté un fardeau de tourments au point de saigner à chaque pore. Corps dont la chair a été déchirée et dont le cœur a été brisé à la crucifixion. Nous indiquons que nous croyons que bien que ce corps soit mort et ait été déposé dans un tombeau, il s'en est levé par le pouvoir de la résurrection pour ne plus jamais connaître la maladie, la corruption ou la mort. Et en prenant le pain en nous-mêmes, nous reconnaissons que comme le corps mortel du Christ, notre corps sera libéré des liens de la mort, se lèvera triomphalement de la tombe et sera rendu à notre esprit éternel. Par un petit gobelet d'eau, nous indiquons que nous nous souvenons du sang de Jésus qui a été versé et des souffrances spirituelles qu'il a endurées pour toute l'humanité. Nous nous souvenons de l'agonie qui a fait couler des grumeaux de sang à Gethsémané. Nous nous souvenons des coups et des meurtrissures qu'il a subies aux mains de ses geôliers. Nous nous souvenons du sang qui a coulé de ses mains, de ses pieds et de son côté au calvaire. Et nous nous souvenons de sa réflexion personnelle sur ses souffrances. Tu ne sais pas combien elles sont atroces. Tu ne sais pas combien elles sont extrêmes. Oui, tu ne sais pas combien elles sont dures à supporter. En prenant l'eau en nous-mêmes, nous reconnaissons que son sang et ses souffrances ont expié nos péchés et qu'il paiera pour nos péchés si nous acceptons les principes et les ordonnances de son évangile. Par conséquent, le pain et l'eau nous rappellent que le Christ nous a rachetés de la mort et du péché. L'ordre du pain d'abord et de l'eau ensuite n'est pas sans importance. Lorsque nous prenons le pain, cela nous rappelle que notre propre résurrection est inéluctable et représente davantage que la simple réunion du corps et de l'esprit. Par le pouvoir de la résurrection, nous serons tous réunis en la présence de Dieu. Cette réalité nous confronte à la question fondamentale de notre existence. La question fondamentale qui se pose à nous n'est pas de savoir si nous vivrons, mais avec qui nous vivrons après notre mort. Chacun de nous retournera en présence de Dieu, mais nous ne demeurerons pas tous avec lui. En traversant la condition mortelle, chacun de nous se souille par des péchés et des transgressions. Nous avons des pensées, des paroles et des actes qui ne sont pas vertueux. En bref, nous sommes impurs. Jésus a clairement expliqué quelles seraient les conséquences pour celui qui est impur en présence de Dieu. Rien d'impur ne peut demeurer dans sa présence. Cette réalité s'est imposée à Alma le Jeune, qui, lorsqu'il a été confronté à un saint ange, a été torturé, écrasé et tourmenté par son impureté au point de vouloir être anéanti corps et âme, afin de ne pas être amené à se tenir en la présence de Dieu. Lorsque nous buvons l'eau de la Sainte Seine, nous apprenons comment nous purifier de nos péchés et de nos transgressions, et ainsi demeurer en la présence de Dieu. Par l'effusion de son sang innocent, Jésus-Christ a satisfait aux exigences de la justice pour chaque péché et chaque transgression. Il nous offre ensuite de nous rendre purs si nous avons suffisamment foi en lui pour nous repentir, accepter toutes les ordonnances et toutes les alliances du salut, à commencer par le baptême, et recevoir le Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit, nous sommes purifiés. Jésus a clairement expliqué ce point doctrinal. Rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Rien n'entre dans son repos, si ce n'est ceux qui ont lavé leurs vêtements dans mon sang. Or, voici le commandement. Repentez-vous toutes les extrémités de la terre, et venez à moi, et soyez baptisés en mon nom, afin d'être sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans tache devant moi au dernier jour. Telle est la doctrine du Christ. Lorsque nous recevons ce point doctrinal et que nous nous conduisons en conséquence, nous sommes réellement lavés dans le sang du Christ et rendus purs. Les prières de Sainte-Seine nous permettent d'exprimer notre acceptation de ce point de la doctrine du Christ et notre engagement à vivre en accord avec lui. Dans cette prière à Dieu, notre Père éternel, nous déclarons que nous nous souviendrons toujours de son Fils précieux. Premièrement, nous témoignons de notre volonté de nous souvenir. Puis, nous affirmons que nous nous souvenons. Ce faisant, nous prenons l'engagement solennel d'avoir foi en Jésus-Christ et en sa rédemption qui nous sauve de la mort et du péché. Nous déclarons également que nous garderons ses commandements. C'est un engagement solennel de nous repentir. Si nos pensées, nos paroles ou nos actions n'ont été ce qu'elles auraient dû être au cours des jours précédents, nous nous engageons à mettre notre vie en conformité avec la sienne dans les jours suivants. Ensuite, nous déclarons que nous voulons prendre sur nous le nom du Fils. C'est un engagement solennel de nous soumettre à son autorité et d'accomplir son œuvre, qui comprend recevoir pour nous-mêmes chaque ordonnance et alliance salvatrice. Lorsque nous nous engageons à suivre ces principes, nous avons la promesse dans les prières de Sainte Cène d'avoir son Esprit avec nous. C'est une bénédiction suprême que de recevoir de nouveau l'Esprit, car l'Esprit est l'agent qui nous purifie du péché et de la transgression. Frères et sœurs, l'événement le plus important dans le temps et l'éternité est l'expiation de Jésus-Christ. Celui qui a accompli l'expiation nous a donné l'ordonnance de la Sainte Cène, non seulement pour nous aider à nous souvenir de toutes les bénédictions de cet acte suprême de grâce, mais aussi pour nous aider à les mériter. Si nous participons régulièrement et sincèrement à cette ordonnance sacrée, cela nous aide à accepter et à vivre la doctrine du Christ après le baptême et ainsi à poursuivre et achever le processus de sanctification. En effet, l'ordonnance de la Sainte Cène nous aide à persévérer fidèlement jusqu'à la fin et à recevoir la plénitude du Père de la même façon que Jésus l'a reçue, grâce sur grâce. Je rends témoignage du pouvoir de Jésus-Christ qui nous rachète tous de la mort et du péché, et du pouvoir des ordonnances de sa prêtrise, dont la Sainte Cène, qui nous prépare à voir la face de Dieu, oui, le Père, et vivre. Puissions-nous recevoir la Sainte Cène la semaine prochaine et chaque semaine qui suivra avec un désir plus profond et une détermination plus ferme. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle.
Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Le dernier orateur de cette session sera Thomas S. Monson, notre prophète bien-aimé. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Quel fondement ferme ». Ensuite, Rosemary M. Wixom, présidente générale de la primaire, fera la prière de clôture.
My beloved brothers and sisters,
mes frères et sœurs bien-aimés, je suis profondément touché d'être devant vous ce matin. J'ai besoin de votre foi et de vos prières pendant que je vous donne mon message. Nous avons tous commencé un voyage merveilleux et essentiel lorsque nous avons quitté le monde des esprits et sommes entrés dans cette étape souvent difficile appelée la condition mortelle. Les buts premiers de notre existence sur Terre sont d'obtenir un corps de chair et d'os, d'acquérir une expérience qui n'est possible que par une séparation d'avec notre Père Céleste et de voir si nous respecterons les commandements. Dans le livre d'Abraham, au chapitre 3, nous lisons « Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. » Quand nous sommes venus sur terre, nous avons apporté avec nous ce grand don de Dieu qu'est le libre arbitre. De milliers de façons, nous avons la possibilité de choisir par nous-mêmes. Ici, nous apprenons à la dure école de l'expérience. Nous discernons le bien du mal. Nous distinguons l'amer du doux. Nous apprenons que nos décisions déterminent notre destinée. Je suis certain que nous avons quitté notre Père avec le désir ardent de revenir auprès de lui, afin de pouvoir obtenir l'exaltation qu'il a prévue pour nous et que nous désirions tant recevoir nous-mêmes. Bien que nous devions trouver et suivre par nous-mêmes ce chemin qui nous ramènera en présence de notre Père Céleste, il ne nous a pas envoyés ici sans directive ni conseil. Au contraire, il nous a donné les outils nécessaires et il nous aidera si nous lui demandons et si nous nous efforçons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour persévérer jusqu'à la fin et obtenir la vie éternelle. Pour nous guider, nous avons les paroles de Dieu et de son Fils dans les Saintes Écritures. Nous avons les recommandations et les enseignements des prophètes de Dieu. Plus important que tout, il nous a été donné un exemple parfait à suivre, celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons reçu l'instruction de suivre cet exemple. Le Sauveur lui-même a dit, « Viens et suis-moi, car les œuvres que vous m'avez vues faire, vous les ferez aussi. » Il a posé la question, « Quelle sorte d'homme devriez-vous être ?» À quoi il a répondu, « En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » Ses pas ont marqué le chemin. Si nous prenons Jésus comme exemple et marchons sur ses pas, nous pourrons retourner sains et saufs auprès de notre Père Céleste et vivre avec lui pour toujours. Le prophète Néphi a dit, « Et maintenant, mes frères bien-aimés, je sais par là que si un homme ne persévère pas jusqu'à la fin dans ses efforts pour suivre l'exemple du Fils de Dieu vivant, il ne peut être sauvé, Chaque fois qu'il racontait les expériences qu'il avait vécues en visitant la Terre Sainte, une femme s'exclamait, « J'ai marché où Jésus a marché. » Elle était allée près de là où Jésus avait vécu et enseigné. Peut-être s'était-elle assise sur un rocher sur lequel il s'était tenu, ou avait-elle contemplé une chaîne de montagnes qu'il avait regardée autrefois. Ces expériences, en elles-mêmes, étaient palpitantes pour elle. Mais marcher physiquement là où Jésus a marché est moins important que marcher comme il a marché. reproduire ses actes et suivre son exemple sont bien plus importants qu'essayer de refaire ce qui reste des sentiers qu'il a foulés dans la condition mortelle. Quand Jésus a lancé à un homme riche l'invitation « Viens et suis-moi », il ne demandait pas simplement à l'homme riche de le suivre par monts et par veaux. Il n'est pas nécessaire que nous allions sur les rives de Galilée ou parmi les collines de Judée pour marcher là où Jésus a marché. Nous pouvons tous marcher sur ses pas. Quand ses paroles résonnant dans nos oreilles, son esprit remplissant notre cœur et ses enseignements dirigeant notre vie, nous choisissons de le suivre pendant notre voyage dans la condition mortelle. Son exemple éclaire le chemin. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si nous examinons le chemin que Jésus a suivi, nous verrons qu'il l'a mené à travers de nombreuses difficultés comparables à celles que nous connaîtrons dans la vie. Par exemple, Jésus a marché sur le chemin de la déception. Il a eu de nombreuses déceptions, mais l'une des plus poignantes est celle exprimée dans sa lamentation sur Jérusalem au moment où il allait mettre un terme à son ministère terrestre. Les enfants d'Israël avaient rejeté la sécurité de l'aile protectrice qu'il leur avait offerte. En regardant depuis les hauteurs de la ville, qui allait bientôt être livrée à la destruction, il a été envahi par l'émotion et une profonde tristesse. Dans son angoisse, il s'est écrié « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ?» Il a parcouru le chemin de la tentation. Lucifer, rassemblant toute sa force et sophismes les plus engageants, l'a tenté. Lui qui jeûnait depuis 40 jours et 40 nuits. Jésus n'a pas succombé, mais a résisté à chaque tentation. Il a dit pour finir, « Retire-toi, Satan !» Jésus a parcouru le chemin de la souffrance. Que dire de Gethsémané, où il était en agonie, et où sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre? Personne ne peut oublier non plus ses souffrances sur la croix cruelle. Nous connaîtrons tous le chemin de la déception, peut-être à cause d'une occasion perdue, de la mauvaise utilisation d'un pouvoir, des choix d'un être cher ou de nos propres choix. Le chemin de la tentation sera aussi commun à chacun. Voici ce que nous lisons dans la 29e section de Doctrine et Alliance. Et il faut que le diable tente les enfants des hommes, sinon ils ne pourraient pas agir par eux-mêmes. De même, nous marcherons sur le sentier de la souffrance. Nous, serviteurs, n'avons pas à craindre de subir davantage que le Maître, qui n'a quitté la condition mortelle qu'après de grandes souffrances. Nous connaîtrons de profonds chagrins le long du chemin. Cependant, nous pouvons aussi trouver une grande joie. Nous pouvons, avec Jésus, suivre le chemin de l'obéissance. Cela ne sera pas toujours facile, mais que notre devise soit celle que Samuel nous a léguée en héritage. Je cite, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Fin de citation. Souvenons-nous que le résultat final de la désobéissance est la captivité et la mort, alors que la récompense de l'obéissance, c'est la liberté et la vie éternelle. Nous pouvons, comme Jésus, suivre le chemin du service. La vie de Jésus, quand il servait parmi les hommes, était un projecteur rayonnant de bonté. Il a apporté la force aux membres des infirmes, la vue aux yeux des aveugles et l'ouïe aux oreilles des sourds. Jésus a emprunté le chemin de la prière. Il nous a enseigné à prier en nous donnant la belle prière que nous connaissons comme le Notre Père. Et qui peut oublier sa prière à Gethsémané ? Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous avons à portée de main, dans les Saintes Écritures, d'autres instructions données par le Sauveur. Dans son serment sur la montagne, il nous dit d'être miséricordieux, humble, juste, d'avoir le cœur pur et d'être des artisans de la paix. Il nous dit de défendre courageusement nos croyances, même lorsqu'on se moque de nous et qu'on nous persécute. Il nous demande de faire briller notre lumière pour que d'autres la voient et désirent glorifier notre Père céleste. Il nous enseigne d'être moralement purs en pensée et en action. Il nous dit qu'il est bien plus important d'amasser des trésors dans les cieux que sur la terre. Ces paraboles enseignent avec pouvoir et autorité. Dans le récit du bon samaritain, il nous enseigne d'aimer et de servir notre prochain. Dans la parabole des talents, il nous enseigne de nous améliorer et de tendre vers la perfection. Dans la parabole de la brebis perdue, il nous dit d'aller au secours des personnes qui ont quitté le chemin et se sont perdues. Il a promis que si nous nous efforçons de mettre le Christ au centre de notre vie, en apprenant sa parole, en suivant ses enseignements et en marchant dans ses pas, nous aurions la vie éternelle qu'il a obtenue par sa mort. Il n'y a pas de fin plus élevée que celle-ci, que nous choisissions d'accepter sa discipline, devenions ses disciples et accomplissions son œuvre tout au long de notre vie. Rien d'autre, aucun autre de nos choix ne peut faire de nous ce que lui peut. Quand je pense à des gens justes qui se sont vraiment efforcés de suivre l'exemple du Sauveur et de marcher dans ses pas, les noms de Gustave et Margaret Walker, deux des personnes les plus chrétiennes que j'ai jamais connues, me viennent tout de suite à l'esprit. Ils étaient originaires de l'Allemagne, qu'ils avaient quitté pour s'installer dans l'Est du Canada. Et je les ai rencontrés quand j'ai été appelé à présider la mission de cette région. Frère Walker gagnait sa vie comme coiffeur. Il avait des moyens limités, mais partageait tout ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas eu la bénédiction d'avoir des enfants, mais ils prenaient soin de tous les gens qui entraient chez eux. Des hommes et femmes instruits et distingués recherchaient la compagnie de ces serviteurs de Dieu humbles et peu instruits. Et ils considéraient qu'ils avaient de la chance de pouvoir passer une heure en leur compagnie. Leur aspect était ordinaire, leur anglais était hésitant et quelque peu difficile à comprendre. Leur maison était sans prétention. Ils n'avaient pas de voiture, ni de téléviseur, ni aucune des choses auxquelles le monde fait habituellement attention. Pourtant, les fidèles se pressaient à leur porte, pour bénéficier de l'esprit qu'on y ressentait. Leur foyer était un coin des cieux sur terre, et l'esprit qui émanait d'eux était empreint de paix et de bonté pure. Nous pouvons nous aussi avoir cet esprit et en faire bénéficier le monde si nous marchons dans les pas du Sauveur et suivons son exemple parfait. Dans les Proverbes, nous lisons l'exhortation suivante. Considère le chemin par où tu passes. Si nous le faisons, nous aurons la foi et même le désir de marcher sur les pas de Jésus. Nous n'aurons aucun doute que nous sommes sur le chemin que notre Père veut que nous suivions. L'exemple du Sauveur nous donne un cadre pour tout ce que nous faisons et ses paroles nous fournissent un guide infaillible. Ses pas nous ramèneront sains et saufs au foyer. Puissions-nous recevoir cette bénédiction, c'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ, que j'aime, que je sers et dont je rends témoignage. Amen.
Notre très cher Père Céleste, nous baissons nos têtes devant toi à travers le monde avec beaucoup de reconnaissance pour l'esprit que nous avons reconnu, ressenti et pour ton Fils Jésus-Christ, pour son sacrifice expiatoire. Il est notre fondation. Nous avons été enseignés au sujet de la Sainte Cène, des bénédictions des prophètes vivants que nous soutenons et que nous aimons. Nous prions pour Président Monson, pour ses conseillers. Nous reconnaissons ta main dans notre vie. Et nous prions que les sentiments que nous avons ressentis puissent rester avec nous et pour nos familles et nos enfants. Puissions-nous aller et appliquer. Avec au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the
184th... Vous venez d'assister à une session de la 184e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.